Mais alors, Benjamin Dessus, ce que vous nous dites, c'est que d'une certaine manière, tout le monde a la situation bien en main. Les experts du GIEC ont bien compris et ont bien expliqué qu'il y avait des différences entre le gaz carbonique CO2, le méthane CH4, l'oxyde nitreux NO2, et qu'il fallait en tenir compte séparément. Mais là où ça se complique, c'est qu'il y a eu, semble-t-il, tout simplement peut-être par une volonté de simplification ou pour quelque autre raison, une façon de lisser ce bouquet, dirais-je, de gaz à effet de serre, de le lisser dans les prévisions et dans la manière d'appréhender le problème, par les politiques générales.
Le problème, c'est le passage. Il y a trois étapes dans cette affaire climatique.
Parlez dans le micro, Bernard Laponche, ça sera tellement mieux.
Il y a trois étapes dans cette question climatique. Il y a l'étape des climatologues. À la limite, on ne l'a pas regardée, celle-ci. Le détail des calculs climatiques, je veux dire, on les a pris comme point de départ aussi de notre réflexion.
Y a quand vous dites on ne les a pas regardés, c'est vous les avez acceptés tels quels.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on n'a pas regardé la question des modèles climatiques. Donc, ce qu'a expliqué Benjamin, les climatologues prennent l'ensemble des gaz, regardent leur évolution, etc. Deuxièmement, il y a une phase dans laquelle, essentiellement, à partir de ce que disent les climatologues sur les effets comparés, mais correctement exprimés, du gaz carbonique et du méthane, il y a une étape de simplification, essentiellement mise en place par les économistes, qui disent, quand même c'est très compliqué cette histoire de plusieurs gaz, ça serait très commode d'avoir une unité commune. Comme on le fait, par exemple,
exactement,
pour l'énergie.
Exactement, pour le pétrole, voilà, la tonne équivalente pétrole appliquée aux gaz à
effet de serre. Et donc, dans l'esprit des gens, c'est un peu la même idée. Or, en fait, c'est pas correct du tout comme analogie, puisqu'il y a le facteur temps qui intervient sur la question des gaz à effet de serre, et qu'en fait, cette recherche d'une unité commune n'est pas pertinente. Il y a une faute logique et un arbitraire de choisir à 100 ans, parce qu'on aurait pu choisir à 75 ans, à 50 ans, à 500 ans, etc. Donc c'est là qu'il y a une erreur. Et d'ailleurs, au début, les gens du GIEC disaient, vous devez exprimer les émissions de gaz à effet de serre en unité physique. Et si vous voulez, pour faire des comparaisons, vous pouvez utiliser les équivalences. Mais c'est devenu une règle générale. Ce qui fait que
quand vous dites au début, c'est que dans les premiers rapports du GIEC,
vers 95, là.
C'était marqué, vous pouvez. Les gouvernements, les pays peuvent utiliser une équivalence pour comparer, une espèce de comparaison, quoi. Mais ils ne disaient pas du tout que c'était ça l'alpha et l'oméga, que c'était ça la vérité. C'est devenu, après, une décision de prendre, d'exprimer ces émissions en tonnes équivalentes CO2 basées sur ce coefficient d'équivalence de 21. Petit à petit, il n'y a eu plus que ça, sans d'ailleurs aucune explication de ce que c'était. Tout le monde a commencé à raisonner en tonnes d'équivalences CO2, en oubliant complètement que ça venait de ce coefficient arbitraire. Les politiques, à la limite, il ne faut pas leur en vouloir. Ce qu'il faut en vouloir, c'est à leur conseiller. Parce que les politiques ont pris la tonne d'équivalent CO2 comme étant pratiquement des émissions d'un seul gaz, l'équivalent CO2. Et comme les effets du méthane sont minimisés par ce coefficient, par cette équivalence, on est passé pratiquement de la tonne d'équivalent CO2 à la tonne de CO2. Et donc, dans les documents politiques, on vous explique que c'est le CO2 qui constitue de loin le plus. Donc on ne parle plus, ce qu'a dit Benjamin, ni dans le Grenelle, ni dans les papiers européens pratiquement, ni dans les papiers du PNUD, etc. On ne parle plus des autres, on se concentre sur le CO2, et le problème devient uniquement la baisse des émissions de CO2. Alors qu'il faut faire les deux. Il faut faire la baisse des émissions de CO2, mais il faut faire aussi les autres. Donc il y a une erreur logique, si vous voulez, une espèce de dérive qui fait qu'à la fin, plus personne n'y comprend rien.
Ouais, je trouve que ça, c'est suffisamment important pour qu'on y reste un moment. Benjamin Dessus, vous souhaitiez ajouter quelque chose là-dessus ?
Oui, la situation est encore plus compliquée.
Alors là, c'est embêtant.
Cette histoire d'équivalence a été inventée pour un monsieur qui envoie un kilo dans l'atmosphère en année 2000, quelque chose, et puis il s'arrête l'année suivante. Et on regarde ce que ça donne jusqu'à 2100. Mais quand vous faites des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, si vous supprimez un kilo de méthane ou un kilo de CO2 d'ailleurs dans l'année 2000, vous espérez bien qu'en 2001, vous allez faire pareil, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Quand vous isolez votre maison, vous l'isolez pour 100 ans. Et dans le cas du méthane, ça prend une importance considérable. Parce que si vous avez, en 2000, enlevé un kilo de l'atmosphère, de façon définitive, en 2090, il sera toujours enlevé. Et là, il aura un coefficient très important d'absorption, de sens, ce que je vous disais tout à l'heure.
Donc, c'est-à-dire que là, il n'aura pas.
Voilà, il n'aura pas.
Il évitera
une absorption très importante cette année-là. Donc, il comptera beaucoup dans le bilan. Dans le bilan de 2000 à 2100, ce qu'on aura évité en 2090 va compter beaucoup. Or, le calcul qui a été fait sur le pouvoir de réchauffement global a été fait simplement sur quelque chose de totalement ponctuel. Et les politiques mises en œuvre par des États sont des politiques à vocation pérenne. Quand vous faites un réacteur nucléaire, vous le faites pour 50 ans. Quand vous faites une autoroute, vous la faites pour 100 ans. Quand vous faites un urbanisme, vous le faites pour 200 ans, etc. Donc les décisions que vous prenez ont des conséquences très pérennes. Heureusement d'ailleurs.
Et ça, c'est lié à cette erreur de logique que...
Non, ça c'est vrai.
Que Bernard Laponche a exposé, non.
Non, c'est simplement...
On est donc dans un faisceau de simplification mentale.
Quand les gens du GIEC ont défini ces coefficients, dans les conditions où ils les ont définis, c'était juste.
C'est clair.
À 100 ans et pour une action ponctuelle. Manque de chance, traduit par des politiques qui font des politiques continues et qui ne sont pas à 100 ans, on se trompe. Et ça augmente encore d'un facteur 2 le problème, si vous voulez.
Donc,
la sous-estimation du CH4.
Donc voilà, si on reste sur ce nœud qui est quand même assez complexe et qu'on le regarde maintenant du côté, je dirais même pas du côté du politique, mais cette façon qu'a eu toute une société planétaire, de vouloir se simplifier l'existence et en tout cas se simplifier les calculs qu'il a amené de manière mais totalement insensible, puisque visiblement vous faites une découverte l'un et l'autre aujourd'hui. Vous faites une découverte que vous avez abondamment vérifiée, que vous avez testée de tous les côtés, puisque vous êtes allé prendre conseil auprès d'un certain nombre de climatologues, énergéticiens, économistes, etc. Vous faites une découverte qui engage l'ensemble de la communauté internationale, scientifique, politique, économique. C'est-à-dire qu'il engage au sens où c'est une découverte d'une erreur qui a affecté un nombre assez hallucinant d'acteurs.
Ce n'est pas une erreur. Les climatologues pourront vous dire, nous, on ne s'est pas trompé. Les gens qui ont défini les coefficients du GIEC, qui sont plutôt proches des économistes, ne se sont pas trompés non plus. C'est plutôt une espèce de péché d'omission global, où on n'a pas transmis l'information aux décideurs, on leur a pas dit attention, on ne peut pas se servir de ces coefficients de cette façon-là, et on ne leur a pas rappelé, au bout d'un certain temps, qu'ils étaient en train de faire n'importe quoi. Je pense que c'est plutôt une espèce de laxisme qu'une erreur. Si vous voulez.
D'accord.
Mais ça devient... Et il y a des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons politiques, il y a des bonnes raisons culturelles. En particulier, dans les accords de Kyoto, très vite, on s'est dit, on va résoudre par le marché tous ces problèmes-là. En faisant des échanges de carbone, un marché du carbone, un marché du CO2, etc. Et évidemment, pour échanger des données, c'est pratique de les mesurer avec la même balance. Donc, les économistes ont poussé très fort à ce qu'on ait cet équivalent CO2 qui permettait de faire des transactions simples.
Mmh.
Et du coup, on est entré d'autant plus rapidement dans cette affaire qu'on avait envie de mettre ça sur le marché.
Il y a quand même un processus inquiétant parce que vous avez le sentiment qu'à partir d'une expertise climatique qui en tout cas donne des informations qui sont correctes, d'une certaine mesure, on n'a rien inventé. On a retrouvé les calculs qui montraient ce qu'on dit à partir de chapitres
analysés, ce qui n'est jamais fait.
Mais c'est ça qui est très inquiétant, si vous voulez, c'est qu'on... Il y a cette espèce de dérive qui fait que, au lieu de dire, bon, on a choisi un coefficient d'équivalence pour telle et telle raison, mais faites attention, il ne signifie pas que, on a gommé tout le il ne signifie pas que, pour donner l'impression que c'était la vérité, climatique. Donc, c'est ça qui m'ennuie le plus, c'est que vous avez toute une. toute une population qui se dit experte, et en tout cas qui se dit conseil des décideurs, et à qui forcément les décideurs font confiance, et qui masque, volontairement ou non, j'en sais rien, parce qu'on a eu le même type de problème hein, sur les unités énergétiques, donc ce n'est pas un phénomène, mais là il est plus grave d'une certaine façon, parce qu'il est mondial, et qui masque des choses relativement simples. De dire, bon, mais attendez, faites attention, à 50 ans, c'est pas comme à 100 ans. Il faut tenir compte du fait que s'il y a des actions qui ont des conséquences pérennes, la méthode de calcul n'est pas la même que pour des actions ponctuelles. Enfin, tout ça, en fait, n'est pas extrêmement compliqué. C'est des règles de trois et c'est des raisonnements simples. Et je pense que ces raisonnements peuvent aller jusqu'aux décideurs politiques. Et qu'il est anormal qu'entre les deux, tout d'un coup, il y a une espèce de pseudo-simplification, et les simplifications, si vous voulez, elles sont admissibles si elles gardent l'essentiel des phénomènes, mais qu'elles les rendent plus compréhensibles. Mais une simplification
qui altère
les phénomènes, c'est très grave. Parce que le politique peut dire, moi écoutez, on m'a dit ça, donc je fais ce qu'on m'a dit, d'une certaine façon. Donc je pense qu'il faut retricoter ce qui n'est pas très compliqué, c'est-à-dire partir des scénarios des climatologues dans lesquels il y a des réductions d'émissions de gaz carbonique, de méthane, d'oxyde nitreux, et de définir des politiques sur la base de ces scénarios, et voilà. Donc c'est pas dramatique si on s'en rend compte avant la discussion, la rediscussion après Bali.
Parce que si je vous suis bien, Benjamin Dessus, Bernard Laponche, somme toute, cette petite épine qui s'est glissée dans les admirables raisonnements qui sont ceux de nos décideurs, de nos experts, etc., ça n'est pas tant sur l'explication ou sur la prévision de la situation à venir que sur les politiques de décision qu'elle implique. C'est-à-dire, la situation est parfaitement bien décrite, elle est celle que les experts du GIEC... Enfin,
c'est ce qu'on a admis.
Voilà, vous l'avez admis, et a priori,
il n'y a pas
de raison... On n'a pas
les compétences qui nous permettent de remettre en cause les modèles.
Mais il n'y a pas de raison non plus, a priori, de remettre en cause ces modèles. En revanche, les politiques qui sont décidées à partir de ces mêmes informations sont faussées.
Elles ne sont pas cohérentes avec les hypothèses de base, quoi.